le génocide des Tutsis, qu'on nous présente comme un combat préhistorique entre ethnies sauvages, c'est en fait un instrument de guerre totale extraordinairement sophistiqué. C'est l'invention de la quatrième arme de dissuasion massive au XXe siècle, après les armes chimiques pendant la guerre 14, l'arme nucléaire pendant la guerre 45, puis les essais d'armes bactériologiques, notamment en Afrique du Sud. Et la France est non seulement complice de ce crime abominable, mais on peut maintenant penser sérieusement qu'elle en est co-actrice, co-initiatrice. Alors je vais essayer de vous expliquer cela. Ce que je vais vous dire ce soir, vous auriez peut-être préféré ne pas l'entendre. Vous savez que ça fait 10 ans que je creuse dans ces méandres un peu nauséabondes de la France-Afrique. Bien, moi-même, j'en ai été déstabilisé par les témoignages que nous avons recueillis. Donc, ce n'est pas des bonnes nouvelles que je vais vous apprendre, parce que ça va vous montrer que notre pays est capable de pire encore que ce que nous pouvions imaginer. Je pense que simplement, ça doit nous amener à réagir et à nous dire que ce qui s'est passé là, c'est à la fois un crime abominable et c'est en même temps un révélateur de la manière dont fonctionnent nos démocraties, entre guillemets, avec quand même un petit peu de complaisance de notre part, parce qu'on s'y intéresse pas assez. Alors je vais vous raconter cette commission d'enquête citoyenne, vous dire ce qu'on a trouvé progressivement, assez rapidement. Et puis ensuite on ouvrira le débat, parce que je crois que c'est ça qui permettra aussi d'avancer. Ça fait longtemps, depuis 1994, j'avais publié à l'époque un livre en novembre qui s'appelait « Complicité de génocide ». L'éditeur avait rajouté un point d'interrogation, qui ne s'imposait pas vraiment, que l'on sait que la France a été l'alliée intégrale d'un régime qui, entre 1990 et 1994, était en train de un régime déjà raciste qui depuis 30 ans marginalisait l'ancienne ethnie. Je ne vais pas tout vous raconter parce qu'on a déjà parlé hier. Ce régime, dès 1991, avait commencé des massacres tests de plusieurs milliers de personnes. On savait que la France avait soutenu à fond ce régime. On savait que la France avaient formé la garde présidentielle, les plus féroces des tueurs, qui eux-mêmes avaient formé les miliciens, et on savait déjà plus ou moins que la France avait continué à fournir des armes pendant le génocide. On savait aussi qu'aussitôt après, elle s'était alliée avec ces génocidaires pour qu'ils puissent contenir le travail, comme si, continuer le travail, comme si de rien n'était. Un certain nombre de rapports qui sont parus depuis, de Human Rights Watch, le livre extraordinaire d'Alison Desforges, Aucun témoin ne doit survivre en 1999, le livre récent de Roméo Dallaire, le rapport de l'Organisation de l'Unité Africaine, des travaux sur les trafics d'armes menés en Belgique et aux Pays-Bas, etc., etc., avaient considérablement nourri le dossier. Juste avant la commission d'enquête citoyenne, nous avons appris que l'un des plus grands journalistes français, Patrick de Saint-Exupéry, allait sortir un ouvrage qui menait aussi l'éclairage de ce qui s'est passé beaucoup plus loin. Patrick de Saint-Exupéry, je vous rappelle en quelques mots, c'est un prix Albert Londres, c'est l'équivalent d'une sorte de prix Nobel du journalisme. C'est un journaliste du Figaro, donc ce n'est pas franchement un antimilitariste primaire. C'est quelqu'un qui a été témoin du génocide, en ce sens qu'il a été à plusieurs reprises au Rwanda pendant et juste après le génocide, en étant présent dans l'opération turquoise, et qui a eu plusieurs chocs décisifs dans sa vie à l'occasion de ce génocide, qui l'ont amené, après avoir recueilli de nombreux témoignages de militaires écœurés par ce qu'ils avaient fait, qui l'ont amené en 1998, pour le centenaire exact de J'accuse, a publié 4 articles tout à fait précis et accusatoires sur la complicité de la France qui ont déclenché la fameuse mission parlementaire d'information sur le Rwanda. Deux anecdotes à ce sujet. Vous savez que la mission parlementaire d'information a ramassé beaucoup de documents, mais que les documents les plus intéressants, elle les a mis à la fin de ses annexes et elle ne pouvait pas les refuser parce que c'est Patrick de Saint-Exupéry qui les amenait et que censurer ce journaliste, c'était un petit peu difficile. Et d'autre part, nous avons pu montrer pendant notre commission de la semaine dernière que tous les aspects sensibles, en fait, avaient été esquivés ou verrouillés de manière à ne pas pouvoir être abordés. Et un officier confié récemment à un journaliste, heureusement que la mission Quilès, que Paul Quilès a bien travaillé, sans quoi nous serions déjà tous au tribunal pénal international d'Arusha. Et pendant cette époque, durant l'été 1998, un jour, Patrick de Saint-Exupéry passe au téléphone sonne sur France Inter. Il explique tous les éléments de complicité de la France qu'il a recueillis auprès de militaires. Et à la fin, il y a un militaire des services spéciaux qui téléphone, qui confirme intégralement ce que dit Patrick de Saint-Exupéry, qui rajoute un certain nombre de choses, et puis qui finit par s'effondrer en sanglots en disant « si vous saviez ». Autrement dit, tout ce que vous dites, tout ce que j'ai rajouté, c'est encore très en dessous de la réalité de ce que nous avons fait au Rwanda. Et il faut s'apprêter à le voir. Il faut ouvrir les yeux. Donc, ce livre qu'il faut lire absolument, parce que c'est un livre fondamental, c'est un livre en plus dont l'écriture est à la hauteur du sujet, nous a aussi beaucoup aidé. Il nous a également permis d'entrer en contact avec quelqu'un qui a mené un travail tout à fait différent, qui est un franco-argentin dont les parents ont dû fuir la dictature, déjà la dictature argentine en 1961, et qui s'intéresse depuis 20 ans pour sa thèse d'État aux doctrines militaires, aux doctrines de guerre. Il a eu accès aux archives de l'école de guerre pour sa thèse et en fait il a découvert des choses absolument incroyables, invraisemblables, dont je vais vous parler tout à l'heure et qui permettent de comprendre ce qui s'est passé au Rwanda. Alors, je vais vous résumer maintenant les principales découvertes que nous avons faites durant cette commission d'enquête citoyenne, et puis ensuite je vais vous reparler de Gabriel Périès. Qu'est-ce qu'on a trouvé? On a examiné la complicité militaire, la complicité financière, la complicité diplomatique, la complicité idéologique, turquoise et la hiérarchie des responsabilités. S'agissant de la complicité militaire, on a pu montrer que la France, ce que je vous disais tout à l'heure, avait été présente dans les camps où se formait la garde présidentielle, qu'elle vivait à côté des gens de la garde présidentielle, que des miliciens y arrivaient, qu'elle avait formé les leaders des miliciens, et un témoin tout à fait crédible est venu expliquer que dès 1991, à côté de Ruhengeri, dans le fief du président Habyarimana, des militaires français aux barrières triaient les gens qui arrivaient sur la route, une file de voitures, à partir des cartes d'identité ethnique, que ces militaires français, dès qu'il y avait un Tutsi, le remettaient aux miliciens qui étaient à côté, qui le découpaient séance tenante. Donc dès 1991, des militaires français commettaient des crimes contre l'humanité, puisque ça s'appelle un crime contre l'humanité. Dès 1993, déjà avant, mais au moins 1993, lors du massacre des Bagogwe, qui est un groupe de Tutsis qui habitent le nord-ouest du Rwanda, dès cette époque, c'est ceux qui commettaient ces crimes avaient leur base au camp de Bigogwe, dans lequel résidaient les instructeurs français, et on a le témoignage de que des camions de cadavres arrivaient. Donc les Français savaient parfaitement ce que faisaient leurs élèves, Il a été aussi démontré, et là la mission parlementaire a fait un bon travail sur ce point, que en 93, l'armée du régime Nabiyarimana était en pleine déconfiture. Et donc, que ce sont les forces spéciales françaises qui menaient la guerre, qui la menaient totalement, qui étaient plus que des conseillers. Si vous voulez, pour prendre une comparaison, l'armée française jouait le rôle de l'armée américaine auprès de l'armée sud-vietnamienne. C'est-à-dire que c'était en fait l'armée française qui combattait. Et donc, ces fameux militaires rwandais qui étaient en train de préparer le génocide, parce que la préparation du génocide a commencé dès 1992, ces militaires-là, c'était des gens dont les Français partageaient la vie quotidienne, qui voyaient tous les jours. Le fameux colonel Bagosora, qui sera le concepteur du génocide, a été formé à l'école de guerre française. Un point très important. Donc, la France était intimement liée à ceux qui préparaient le génocide, et elle était déjà très proche, on l'a vu en certains exemples, de ceux qui commençaient à massacrer sur une base ethnique. Ensuite, nous avons montré que la France a livré des armes, non seulement avant, mais pendant le génocide, par toutes sortes de circuits. Elle en a livré même quand elle était pendant l'opération turquoise. Dans l'opération turquoise, elle contrôlait l'aéroport de Goma, qui est juste à côté du Rwanda, et via cet aéroport, les forces du génocide étaient directement alimentées. Un journaliste qui a enquêté à l'époque nous a dit qu'il était absolument impossible que des armes sortent de l'aéroport de Goma où elles venaient d'atterrir, il n'y avait que deux ou trois avions par jour, sans que les Français soient totalement au courant de ces livraisons d'armes qui allaient directement aux génocidaires. Certaines de ces livraisons d'armes ont fait l'objet d'enquêtes des Nations Unies, et on a vu que l'argent a été payé par la BNP à Paris le 15 juin, deux mois et demi après le début du génocide, etc., etc. On a vu que certains trafiquants d'armes étaient de vieux alliés de la France-Afrique, dans l'Afrique de l'apartheid ou ailleurs. Je vous passe ces détails, on a suivi les circuits des livraisons d'armes. Il y a eu des aveux. Recevant Médecins sans frontières, Alain Juppé, fin mai, pratiquement deux mois après le début du génocide, leur a dit « Je viens d'arrêter les livraisons d'armes. » Mais je ne suis pas... Et montrant l'Élysée, là, je ne sais pas ce qui se passe. J'ai les textes là-dessus. C'est une entrevue qui est relatée dans les documents internes de MSF. Un conseiller de Michel Roussan, ministre de la Coopération, a dit à Gérard Prunier, qui a fait une histoire du génocide, « Nous livrons des armes au gouvernement intérimaire, c'est-à-dire ceux qui commettent le génocide, » mais bien sûr, nous le démentirons si vous le publiez. Or, nous avons pu produire un document pendant la mission parlementaire, avoir accès au contenu d'un document qui est un échange de courriers entre le fameux Jehan, conseiller de Roussin, et le directeur du renseignement militaire, Jean Henrich, qui a joué un rôle très important à cette époque, où on examine les fournitures ou les demandes de fournitures militaires pendant le génocide. Nous avons aussi longuement analysé le compte-rendu d'une rencontre entre le numéro 2 de l'armée qui encadrait le génocide et le général Huchon qui dirigeait la mission militaire de coopération et qui était au cœur de la manœuvre au milieu du génocide. Et là-dedans, on parle de beaucoup de choses extrêmement intéressantes. On parle de la mise en œuvre de moyens de communication cryptés entre la France et l'armée qui commettait le génocide, etc. Et puis, l'un des principaux sujets, c'est que le général Huchon dit « Vous avez une trop mauvaise image, il faut l'améliorer. On peut pas, on a du mal à vous aider parce que, vraiment, il faut améliorer votre image. » Et il ajoute « La guerre sera longue. » La guerre sera longue. effectivement, elle dure depuis 10 ans, puisque depuis 10 ans, on reste les alliés de ce Hutu Power. On a pu montrer aussi que sitôt que le lieutenant-colonel Roy Balinda, donc l'interlocuteur du général Huchon, est rentré à Kigali, aussitôt, il y a eu des consignes qui ont été passées par la radio pour dire « Oui, on commence à s'inquiéter à l'étranger, donc il ne faut plus qu'on voit les cadavres, il faut continuer à travailler, mais un peu plus discrètement. Bon. » Donc, on revoit l'histoire de cette collaboration. On a retrouvé un texte du général Huchon qui, après la fin du génocide, continue à dire « Les Hutus sont la majorité du pays, le FPR demeure notre ennemi, c'est-à-dire qu'on doit continuer la guerre du côté, entre guillemets, de la majorité Hutu. » On a eu des témoignages innombrables sur des documents qui montrent la continuation incessante de ce soutien militaire pendant et après le génocide. Sitôt après, grâce à Turquoise, on a permis à l'armée qui l'avait commis de se replier tranquillement juste à côté du Rwanda pour préparer la contre-attaque. La France a transporté dans ses véhicules ou ses avions les principaux responsables du génocide, comme le colonel Bagosora, Jean-Baptiste Gatété, qui est le chef des miliciens, etc. Il y a une enquête du Human Rights Watch qui montre qu'on a été reformé aussitôt des militaires et des miliciens dans nos bases en Centrafrique. Et après ça, je vous passe tous les détails. Pendant 10 ans, ces gens-là ont été nos alliés et ils ont notamment aidé M. Denis Sassou Nguesso à reprendre le pouvoir dans notre néocolonie pétrolière qu'est le Congo-Brazzaville, avec une série de crimes contre l'humanité épouvantables en 1997, 1998 et 1999. Une partie de ces gens-là réfugiés au Congo ont été les alliés de M. Sassou Nguesso. Et cette guerre-là continue avec l'appui des services français. Nous avons aussi, je passe donc sur cette complicité militaire, on a identifié un certain nombre de personnages clés dans cette complicité militaire, comme les généraux Kenno, Huchon en particulier, le général Kenno qui était le chef d'état-major particulier de François Mitterrand, et le général Huchon qui commandait la mission militaire de coopération. On a ensuite abordé la question de la complicité financière. Je vous ai expliqué que certaines des livraisons d'armes les plus importantes ont été payées par la BNP. Nous avons montré, grâce à une enquête qui a été menée par un sénateur belge sur pièce dans la banque centrale du Rwanda, que entre mi-mai et le 1er août, la Banque de France et la BNP n'ont cessé d'accepter que la banque du génocide vienne prélever des sommes considérables. Une grande partie de l'argent prélevé pour financer ces actions a été tirée sur la Banque de France et sur la BNP. La France a donc financé le génocide. La France a armé les génocidaires. La France les a soutenus diplomatiquement. L'ambassadeur de France s'est vanté devant un collègue, l'ambassadeur de France à Kigali, d'avoir constitué le gouvernement du génocide au sein de l'ambassade de France à Kigali, 2 jours après le début. Il a dit, c'est la première fois, en rigolant, c'est la première fois que je crée un gouvernement. Donc c'est la France qui a constitué le gouvernement du génocide avec les plus radicaux de la classe politique. La France, avec son ami Boudros Ghali, pendant un mois et demi, s'est arrangé pour que la version présentée à l'ONU soit la version d'une guerre et non pas d'un génocide, en disant ce sont des massacres collatéraux à une guerre qui est en train de se dérouler. Moyennant cas, ça a contribué à retarder les décisions de l'ONU qui malheureusement n'avait pas besoin de ça, d'ailleurs, pour être peu réactif, voire inactif. La France n'a cessé de reconnaître, et elle était la seule, le gouvernement intérimaire rwandais qui a été reconnu par le tribunal pénal international d'Arusha comme celui qui a administré le génocide. nous avons reçu fin avril le ministre des Affaires étrangères de ce gouvernement et le représentant d'un parti ultra-radical, le CDR. Nous n'avons cessé d'avoir des échanges avec ce gouvernement et fin août, alors que le génocide était achevé, circulaient déjà des documents pour savoir comment on allait accorder des visas à ces gens qui avaient commis le génocide. Un soutien diplomatique incessant, dont atteste aussi Roméo Dallaire. Il y a eu ensuite le soutien médiatique qui a fait qu'en France, on a eu beaucoup de mal à comprendre ce qui se passait. Nous avons examiné intégralement toute la presse durant le génocide. Il y a des médias qui ont bien fait leur travail. Et en général, d'ailleurs, les reporters qui ont été sur place ont été tellement bouleversés par ce qui se passait qu'ils ont fini par dire des choses très bien. Mais on s'aperçoit qu'on change les titres. C'est-à-dire parfois, il y a des titres à Paris qui inversent pratiquement le contenu de ce que dit le reporter. Il y a des éditoriaux qui développent déjà la thèse du double génocide, qui développent la thèse de l'antitutsisme français, etc. Et surtout, il y a le rôle du journal Le Monde, qu'on voit réapparaître maintenant, le rôle du journal Le Monde qui, avec des reportages très ambigus, minimise d'abord totalement les massacres, ensuite parle de massacres sans jamais citer les responsables dans une confusion considérable. Et nous avons eu aussi un témoignage très important en interne du Monde. Le Monde n'a parlé du génocide que le 8 juin, alors que Libération avait parlé déjà de cela le 11 avril, je crois. Et tout simplement, selon une source interne, parce qu'on rayait le mot génocide des articles envoyés par les envoyés spéciaux. Il y a eu une volonté délibérée de cacher la réalité du génocide au Monde. Et puis vous connaissez toute l'histoire du traitement par le Monde de ce qui s'est passé là-bas. Dans cette complicité idéologique, on voit apparaître dès 1993 le thème des Khmer Noirs, les Tutsis, le FPR, ce sont des Khmer Noirs qui vont reproduire le génocide cambodgien. En même temps, on dit Paul Kagame a été formé aux États-Unis, c'est un petit peu paradoxal. Mais enfin, on n'est pas dans ces schémas de propagande. C'est à la fois l'homme des États-Unis et l'homme anti-États-Unis. Mais dans la propagande, on peut faire avaler absolument n'importe quoi. Il y a la thèse du peuple majoritaire. Les Hutus représentent 80% de la population, donc c'est eux qui ont raison. On oublie que la démocratie, c'est un état de droit qui, en principe, conduit à ne pas massacrer les minorités. On développe tout un tas de thèses de ce genre qu'on retrouve dans une propagande inspirée par nos services secrets. Ensuite, il y a l'opération Turquoise. Et là, sur l'opération Turquoise, on a eu des témoignages absolument effarants qu'il va falloir que vous puissiez regarder. Nous avons envoyé un cinéaste filmer des témoignages pendant un mois au Rwanda, à la fois dans les prisons et auprès des rescapés. Et ce qui est tout à fait troublant, c'est qu'à leur manière, les bourreaux ou les tueurs repentis disent la même chose que ce que disent les rescapés. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, pour ce qui concerne, vous savez, la colline de Bicicero, les collines de Bicicero, qui est une vaste zone très boisée, peu accessible, où s'étaient réfugiés 50 000 Tutsis qui, avec des cailloux et des bouts de bois, résistaient en se cachant contre les attaques des miliciens. Ils étaient encore 5 000 au moment où Turquoise est arrivé fin juin, à avoir résisté en étant déjà presque affamés, la plupart blessés, etc. Et ce dont témoignent à la fois les rescapés et les chefs miliciens, c'est que la France a fait mine de découvrir ces rescapés le 27 juin. Elle est venue à plusieurs reprises, soit par des hélicoptères, soit avec des camions, en emmenant des miliciens, parfois déguisés sous des costumes de la Croix-Rouge, ou alors, à certains cas, elle appelait les rescapés en disant qu'on venait les sauver, donc ils sortaient tous de leur cache, les Français s'en allaient, ils tiraient de coups de feu et les miliciens arrivaient. Ce qui est tout à fait certain, prouvé de diverses manières, c'est que pendant les 3 jours, entre le moment de la première découverte et le moment du sauvetage, je vous dirai pourquoi il y a eu sauvetage tout à l'heure, spectaculaire par l'armée française, encore raconté il y a quelques jours par Paris Match, eh bien, il n'y a jamais eu d'attaque aussi importante. On a ramené des interamo et des miliciens et de l'armée de toute la région avoisinante pour mener des derniers assauts, pour, en gros, exterminer cette poche de résistance à l'intérieur de ce qui devait devenir un Outouland dans l'esprit des stratèges français. Ces témoignages sont terrifiants. D'autre part, il y avait un camp de rescapés dans une ville qui s'appelait Nyarushishi, et où il y avait 8000 Tutsis rescapés. Ce camp a été gardé donc par des soldats français, et c'est là qu'on amenait les rescapés. On les amenait parfois entassés dans des véhicules blindés les uns sur les autres, eux qui étaient blessés et affamés, ce qui fait qu'une partie mourait en route. Ça vous évoquera des choses. Ces gens-là étaient rassemblés dans le camp de Nyarushishi, et des témoignages d'hommes et de femmes à l'intérieur expliquent, en concordance avec les témoignages des miliciens, que régulièrement, les Français qui ne donnaient pas de quoi chauffer les aliments aux gens qui étaient à l'intérieur du camp, leur disaient d'aller chercher du bois ou d'aller chercher une vache qu'ils avaient dépecée à l'extérieur. Ils refermaient la barrière derrière les rescapés qui sortaient, et ces rescapés se faisaient découper par les miliciens qui étaient de mèche avec les Français. À l'intérieur du camp, plusieurs femmes témoignent que les soldats français avaient fait d'elles des esclaves sexuels, les violaient systématiquement, ont torturé à mort une femme qu'ils avaient violée, etc. Une survivante qui est démolie par tout ce qu'elle a subi témoigne dans des conditions, c'est un témoignage effarant, moyennant quoi on s'aperçoit qu'une partie de ces troupes spéciales françaises ont des comportements que je qualifierais de nazis. Et il faut se demander pourquoi. Ces témoins expliquent que les Français, non contents de n'arrêter aucun des miliciens qui étaient en train de continuer les massacres dans l'ouest du Rwanda, en fait, les encourager à continuer, même les stimuler, leur ont apporté des armes et leur disaient « vous n'avez pas assez achevé le travail ». Ensuite, mais là il faut que je revienne un peu en arrière, on a pu également montrer à travers une série de témoignages sur des problèmes de cartes qui ont été présentés soit à Kigali, soit devant les Nations Unies, ou qui ont été discutés à l'état-major français, que l'objectif de l'opération turquoise, c'était de partager le Rwanda en deux, de faire à l'ouest une sorte de Corée du Nord, où on aurait protégé l'ensemble des militaires et politiques qui avaient commis le génocide, pour pouvoir reconquérir le Rwanda. Ça, c'était la thèse de Mitterrand, avec les officiers les plus anti-Tutsis de l'armée française. Balladur s'y est opposé pour diverses raisons, et donc ces gens-là n'ont pas pu mener cette guerre complètement comme ils le voulaient. Ça n'empêche qu'ils sont arrivés avec tout sauf des ambulances. Et c'est pour ça, entre autres, que quand des journalistes indignés les ont obligés à aller à Bisesero pour sauver 800 rescapés, on a transporté ces gens dans des véhicules totalement inadaptés, parce que c'était une opération humanitaire qui n'avait pas d'ambulance, qui n'avait pas de médecin, pas d'hôpital de campagne, rien du tout. Donc le leurre total de cette opération militaro-humanitaire est totalement démontré. Nous avons pu également montrer que, en fait, la prise de Kigali par le FPR ayant eu lieu le jour même où la France décrétait sa zone humanitaire, le front a évolué très rapidement et la France a été obligée de constituer un territoire d'un quart du Rwanda au sud-ouest, territoire où les miliciens ont pu continuer leur massacre, on n'en a arrêté aucun, et ensuite, des témoignages montrent que ce sont les Français qui ont organisé le fameux exode. Vous vous souvenez, 1 million de personnes qui quittent le Rwanda d'un coup, on a dit c'est un exode, tout le monde s'enfuit. En fait, les Français ont co-organisé la fuite qui a permis d'abriter, comme dans un bouclier humain, tous ceux qui avaient commis le génocide et de les installer à proximité du Rwanda où, comme je vous l'expliquais, on a ensuite aussitôt reconstitué une alliance et on a également un témoignage du général Dallaire qui montre qu'autour de l'état-major reconstitué dans l'est du Zaïre, il y avait des officiers français qui se trouvaient à côté du général Bizimungu qui avait commandé l'armée génocidaire. Je n'en finirai plus, je pourrais répondre à des détails si vous voulez. J'en viens maintenant à ce que nous apprend à la fois Patrick de Saint-Exupéry à partir des confidences d'officiers français indignés et Gabriel Périès à partir de ses travaux qui ont conduit à une thèse de doctorat d'État. Qu'a découvert Gabriel Périès? En fait, dans leur lutte coloniale, les dernières guerres coloniales, pour essayer de préserver l'Empire français, les Français ont d'abord été vaincus en Indochine. Et quelques-uns d'entre eux, au nom peu connu mais qui gagneraient à l'aide davantage, notamment les colonels Lacheroy et Trinquier, se sont mis à développer les théories de ce qu'ils appellent, selon les cas, la guerre révolutionnaire, la guerre moderne ou la guerre psychologique, qui est un mélange d'organisation du territoire, de fichage systématique de la population et de contrôle des populations par la peur, par la propagande, une propagande qui désigne un ennemi intérieur et qui plonge les gens dans un état de peur tel qu'ils deviennent totalement malléables. Lacheroy dit « Quand la population a peur, elle devient comme un verre dans lequel on peut verser ce qu'on veut. » Ces techniques croisées de Lacheroy et de Trinquier ont été mises en œuvre en Algérie. C'est d'abord la bataille d'Alger, le contrôle par la terreur, vous savez, toute la torture, les disparitions mises en œuvre par Osarès en 1957. C'est ensuite, avec le plan Châle, la mise en œuvre des mêmes méthodes de terreur, de ratissage, de quadrillage, de torture systématique, de viol systématique, on le sait moins, dans toute l'Algérie. Ces méthodes ont obtenu des succès militaires, entre guillemets, spectaculaires. De Gaulle, qui était un militaire, avait compris que c'est pas comme ça qu'on remportait des batailles politiques, et donc il a négocié l'indépendance de l'Algérie et les militaires qui allaient de défaite en défaite, puisqu'ils avaient perdu l'Indochine et qui se voyaient perdre l'Algérie, ont tenté d'assassiner De Gaulle. De Gaulle, à ce moment-là, a supprimé les 5e bureaux qui étaient un peu les repères des praticiens de ces doctrines militaires. Et nous, Français, nous pensions que tout ça s'était terminé avec l'OAS. Mais on a oublié l'essentiel. Et c'est là que le travail de Périès devient très intéressant. On a oublié que ces Lacheroy, ces Trinquier, ces Osarès sont devenus des dieux dans le monde des forces spéciales occidentales et que leur doctrine a conquis le monde. Que nous sommes les meilleurs. Et oui, nous n'avons pas fait que le Concorde. Il y a deux types de doctrine militaire. Il y a la doctrine militaire de dissuasion, qui ne sert pas très souvent, et il y a la doctrine militaire de contrôle des populations. Comment on contrôle des populations? Le mélange des théories de quadrillage de Lacheroy et des théories de terreur, de guerre psychologique de Trinquier, ce mélange est considéré comme le meilleur logiciel au monde de la guerre de contrôle des populations. Et aujourd'hui encore, on projette le film La bataille d'Alger auprès de toutes les forces spéciales pour la nouvelle guerre froide. Les colonels, les officiers français qui avaient commis toutes ces horreurs pendant la guerre d'Algérie, De Gaulle les a écartés des lieux de commande de l'armée française, mais les a aussitôt recyclés dans tous les pays d'Afrique pour établir des dictatures totalitaires, des régimes policiers. Et c'est comme ça qu'on a mené la guerre au Cameroun, c'est comme ça qu'on a assassiné un certain nombre de gens, qu'on a instauré la terreur au Gabon et dans d'autres pays, au Togo. Et puis ensuite, ces gens-là, qui avaient côtoyé dans l'école de guerre, encore une fois, c'est un peu comme le Louvre. Tous les officiers d'un peu partout viennent en France dans ce temple de la doctrine militaire. Des officiers belges qui ont œuvré au Rwanda par la suite, des officiers latino-américains. La France, imaginez-vous, a été invitée via Osares à faire des cours à la CIA. Et c'est elle qui a apporté les méthodes de l'opération Phoenix, qui a fait 100 000 morts pendant la guerre du Vietnam. Ce sont ensuite des officiers français qui ont été formés, une grande partie des personnels des dictatures torsionnaires en Amérique latine dans les années 75 à 85-90. Ces militaires-là se trouvent au sein des troupes d'élite de l'armée française. Ces troupes d'élite de l'armée française, c'est essentiellement les régiments d'infanterie de marine, qui sont simplement l'autre nom des anciennes troupes coloniales. Ils sont devenus infanterie de marine, on ne pouvait plus les appeler troupes coloniales. Ce sont ces troupes-là qui sont en Afrique, ce sont ces troupes-là qui fournissaient à l'époque la quasi-totalité de la haute hiérarchie militaire en France, les fameux généraux dont je vous ai parlé tout à l'heure. Ce sont ces troupes-là qui forment les troupes d'action des services spéciaux français, les fameux services action, les fameux 11e choc, etc., etc. À côté d'eux, il y a la Légion étrangère et le GIGN. Étrangement, les gendarmes du GIGN ou de l'EPIGN ont été extrêmement présents au Rwanda. Donc, cette doctrine, c'est pas seulement une doctrine qu'on enseigne à l'école de guerre et qui est considérée comme l'une des meilleures au monde, c'est une doctrine qui est portée par des corps, et c'est très important, parce que les doctrines disparaissent, les corps, eux, transmettent. Surtout que ce sont des corps très fermés, qui ont des sortes de rites d'initiation, et qui sont dirigés par des généraux charismatiques, j'en citerai deux, qui ont donc eu une importance dans cette histoire. C'est, outre le général Kéno et le général Huchon, dont j'avais parlé tout à l'heure, le général Janou Lacaze, qui commandait déjà les services de renseignement pendant la guerre d'Algérie, et le général Heinrich, qui deviendra le directeur du renseignement militaire au moment du Rwanda. Tous ces gens-là constituent l'espèce de noyau dur de l'armée française, 3000 hommes, et ce qu'explique Saint-Exupéry, à partir d'un certain nombre de confidences, c'est que, vers la fin des années 80, il pense avoir franchi un palier dans la maîtrise de la guerre moderne, de la guerre psychologique et du contrôle des populations. Et qu'en quelque sorte, ils choisissent le Rwanda comme un terrain d'expérimentation et un laboratoire. Et que donc toutes les meilleures méthodes de contrôle des populations de l'armée française sont apportées au Rwanda. Les meilleures troupes sont là. Et ils font une sorte de coup d'État. En 1992, avec l'accord de François Mitterrand, l'ensemble de ces troupes spéciales, de ces 3000 hommes, se constitue en commandement des opérations spéciales totalement hors hiérarchie, dépendant uniquement de l'Élysée en une sorte de légion présidentielle. Autrement dit, une partie de l'armée se met hors armée pour pouvoir dépendre directement des caprices d'un président qu'en fait elle influence totalement. Puisque comment le président est-il informé dans sa tour d'ivoire élyséenne? Par les notes quotidiennes, les notes blanches quotidiennes de renseignement de la DGSE, totalement contrôlée par ses troupes d'infanterie de marine, et de la direction du renseignement militaire, dirigée par un ancien des troupes d'infanterie de marine. Donc Mitterrand reçoit tous les jours un endoctrinement à travers ses notes, Et Mitterrand, comme en plus dans le fonctionnement de la presse, des journalistes bien informés se font passer les notes par les services, Mitterrand lit dans la presse la même chose que ce qu'il lit dans ses notes, et finit par dire, mais ces gens-là disent la vérité. Et quand ces gens-là lui disent, écoutez, vous n'avez pas seulement le bouton atomique qui est un symptôme de votre puissance, le symbole de votre puissance, on va vous donner un deuxième bouton atomique. Le bouton atomique, c'est pour la guerre de dissuasion. Maintenant, on va vous doter d'une forme de légion présidentielle qui sera votre outil, vous permettant de mener des guerres secrètes partout dans le monde. Car qui a su, à part un ou deux articles, que la France menait une guerre totale, entre 1990 et 1994 au Rwanda. Une guerre totale. J'ai oublié de vous dire que les Trinquiers et Lacheroy, dans leur doctrine, ont bien sûr piqué leurs meilleurs éléments partout, et que leur principale référence, c'est Ludendorff, le théoricien de la guerre totale, qui était aussi le théoricien de Hitler, qu'ils ont aussi piqué dans les méthodes de Goebbels, etc., etc. Dans cette histoire-là, la doctrine, les recettes n'ont pas de frontières. Donc, ces gens-là, en 1992, ils se constituent hors hiérarchie. Et donc, du coup, ils ont quartier libre au Rwanda. Ils obtiennent de pouvoir mener de l'action et de la guerre psychologique pour démolir leur adversaire, qui est le FPR. Et c'est à ce moment-là qu'apparaît le moteur, la clé, le cœur de la nouvelle arme de destruction massive, la radio des Mille Collines. Calqué sur un format français, je ne sais plus si énergie ou autre chose. C'est-à-dire une radio extraordinairement entraînante, avec une musique formidable, et au milieu, on distille des messages de haine, et peu à peu, on fait comprendre à la population qu'il va falloir qu'elle tue pour ne pas être tuée. Et ça va se révéler d'une efficacité extraordinaire. Lisez Jean Hatzfeld, ses deux livres sur les victimes et les bourreaux, il vous explique que dans le Bugesera, qui est une région du sud-est du Rwanda, il y avait 50 000 Hutus, 59 000 Tutsis. Les 50 000 Hutus, tout au moins tous les garçons ou les mâles à partir d'un certain âge, ont tous, soit de plein gré, soit par la contrainte, dû participer au massacre de 50 000 Tutsis. Il y en a trois qui ont résisté, qui ont été tués. Tous les autres, finalement, par différents modes de chantage, ou parce qu'ils étaient récompensés par des tôles, des meubles, des vaches, la fête qu'on faisait tous les soirs, ont tranquillement, pendant deux mois et demi, mené cette tâche, ce travail quotidien d'éradication des Tutsis. Et tout ça grâce à des choses extrêmement simples. On a acheté pendant neuf mois, ce qui montre la préméditation du génocide, je ne sais plus, 1 million de machettes en Chine, qu'on a distribuées partout. On a acheté une radio, mais vous vous rendez compte, 1 million de machettes, je ne sais plus combien coûte la machette, ça doit coûter 5 francs français, quelque chose comme ça. Une radio, c'est 1000 fois moins cher qu'une bombe atomique. Et l'efficacité, en 3 mois. Donc, voilà ce que nous raconte Patrick de Saint-Exupéry à partir des confidences des militaires français. Voilà où en est la démocratie en France. Et voilà pourquoi l'ensemble des institutions françaises protègent le deuxième bouton du président de la République. Car la puissance de l'État, de la France, les intérêts de quelques-uns, des visions géopolitiques absurdes et aberrantes, fondées sur un mépris total. Je vous rappelle que c'est Mitterrand qui a dit en confidence, un génocide dans ces pays-là, c'est pas trop important. Son bras droit, Monsieur Afrique, Bruno Delay, confié, on vous savez, c'est comme ça que les Africains se comportent. Je finis par une petite anecdote. Charles Pasqua m'a fait un procès en 1999 après que j'ai publié La France-Afrique. Je l'avais accusé de beaucoup de choses, notamment d'être l'initiateur de la French Connection vers les États-Unis sous le couvert de Pernod Ricard. Tout ça, il ne m'a pas attaqué en diffamation. Il m'a attaqué sur un seul point, c'est que je disais que Il avait échangé le terroriste Carlos contre un soutien à ceux qui pratiquaient le nettoyage ethnique au sud du Soudan. Livraison d'armes, etc., de renseignements, de divers moyens. Le tribunal, sur les jugements de diffamation, m'a donné raison sur tous les points, sauf sur un seul, qui m'a valu de payer un franc symbolique à Charles Pasqua. C'est que le seul tort que j'avais eu, selon le tribunal, c'est d'avoir attribué à Charles Pasqua ce qu'il aurait fallu attribuer à l'ensemble du gouvernement français. Mais Charles Pasqua avait fait venir des témoins, 4 témoins, 3 ministres, je crois, et puis l'ancien directeur de la DST, Direction de la Sécurité du Territoire, qui, paradoxalement, est un des piliers de la France-Afrique. Ce monsieur, parent, est venu dire « Oh, mais l'affaire Carlos, c'est la plus belle affaire que, techniquement, c'est une prouesse formidable, cette exfiltration. » Et vous comprenez, dans des cas comme ça, on met le génocide entre parenthèses. Tout est dit. On a mis le génocide des Tutsis entre parenthèses.